Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. Échec du Rassemblement National et de La République En Marche au Régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et alors on a appris que l'un des petits bonheurs des Français, c'est de se faire un petit plateau repas tout seul ou avec ses proches, sa famille, devant la télévision. Mais est-ce que le repas familial reste encore un rituel, une tradition? Pour moi, c'est plutôt oui, pour Emmanuel, c'est plutôt non. Bah, on vous attend au 32-16, on va en débattre.
Et à 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. A gagné cette semaine un séjour d'une semaine Mona Lisa pour 4 personnes dans les résidences Noémie. Vous pourrez choisir les Pyrénées, les Alpes du Sud ou du Nord pour gagner votre séjour et partir ensemble en vacances. Enfin, ensemble, vous et votre famille, je veux dire. Vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Mais avant, on va reparler des régionales ensemble. Il n'y aura pas eu de sursaut démocratique. L'abstention est restée au niveau du premier tour à 66%. Plusieurs éléments à retenir. Les présidents sortants de régions ont tous été réélus. Carole Delga en Occitanie, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et bien d'autres. Le Rassemblement National n'a percé nulle part et La République En Marche a enregistré de faibles scores partout en France. Les deux partis présents au second tour des dernières présidentielles n'ont donc pas convaincu. Pour le candidat perdant de la région PACA, Thierry Mariani, c'est clair, il n'avait aucune chance. Tout le monde était contre le Rassemblement National. On l'écoute.
Je prends bien sûr ma part dans cette défaite et je l'assume. Mais soyons clairs, ce que nous vivons est surtout une défaite pour la démocratie et l'expression de la volonté populaire. Notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui a vu les 3 derniers présidents de la République voler à son secours, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite.
Voilà Thierry Mariani, c'était hier soir après sa défaite. Alors que nous disent ces régionales sur les prochaines élections? Le duel Macron-Le Pen aura-t-il lieu en avril prochain? Laurent, tu dis oui.
Moi je dis
tu dis oui, ça change tout.
En tout cas oui, c'est ça, je dis que ces élections régionales changent tout. D'abord, elles obligent à nous poser toute une série de questions. Finalement, le Front Républicain, on vient d'entendre Thierry Mariani, ça marche, on nous avait dit que c'était mort, mais ça marche encore. Et je vais vous dire, ça marche même mieux qu'il y a 6 ans. Ça, c'est quand même un vrai changement. Est-ce que ce fameux plafond de verre du Rassemblement National, qui prévaut à chaque élection locale et intermédiaire, est-ce qu'il va à nouveau fonctionner pour la prochaine élection présidentielle? C'est un vrai sujet. Deuxièmement, c'est un échec terrible pour La République En Marche. Est-ce que c'est un problème pour Emmanuel Macron et lancer une dynamique pour la présidentielle de 2022? Mais pardon, tout le monde nous parle d'un duel Macron-Le Pen. Moi, j'ai l'impression que depuis hier, il y a une troisième force qui se dégage, c'est la droite. La droite est le premier parti de France. Il l'était déjà au moment des municipales, il l'est à nouveau au régional et au départemental. Dans les sondages, dans les projections pour la future présidentielle, on a même un Xavier Bertrand qui n'est plus qu'à 6 points de Macron et de Le Pen. Donc le match à 2 est déjà devenu un match à 3. Ça veut dire que donc les choses ont déjà commencé à changer et comme on ne sait pas encore quel sera vraiment le candidat de la droite ni même quel sera le candidat de la gauche, ben je pense qu'une fois de plus les Français vont déjouer tous les pronostics comme à chaque fois.
Emmanuel, pour toi c'est une élection qui ne veut rien dire?
Non, c'est une élection qui ne veut rien dire. D'abord parce que cette élection, c'est pas que les Français sont lassés de la démocratie ou qu'il y a de la défiance. Quand ils votent par défiance, les Français, ils votent pas comme ça. Il y a d'autres formes d'expression que l'abstention massive. C'est tout simplement qu'ils pensent que cette élection ne sert pas à grand chose. Et encore une fois, on peut pas leur donner complètement tort parce qu'on a beau nous faire des grands discours. Oh, la région, c'est important. Oh, le département, c'est important. Je rappelle quand même qu'en France, que quand il y a 100 euros d'argent public dépensés, il y en a que 7 ou 8 qui sont dépensés par les départements ou les régions. Donc les gens ont bien compris qu'on vivait dans un système faussement décentralisé et que le pouvoir des départements et des régions, en fait, c'était en grande partie artificiel et que les marges de manœuvre étaient finalement assez faibles. Et puis, moi, franchement, je pense qu'il n'y a pas de mouvement politique français très fort, contrairement à ce que dit Laurent. la droite modérée, la droite républicaine, est depuis toujours le premier parti de France. La dernière élection présidentielle, la réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu l'affaire Fillon, le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça aurait été Emmanuel Macron face à François Fillon. Hein, rappelons qu'il est à un peu plus d'un point de Marine Le Pen. On peut penser que quand même, sans cette affaire, il aurait été au deuxième
tour.
Tout
est ouvert.
Donc, oui, moi je pense que la droite reste de la force majoritaire. Enfin, la France est un pays de centre-droit. Voilà, et je pense que là-dessus, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Voilà, donc moi, pour moi, cette élection, elle ne m'apprend rien, elle ne change pas l'équilibre politique français. Donc je pense qu'effectivement, les cartes ne sont pas du tout rebattues.
Eh bien, on va aller au 32-16 dans un instant. Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Face aux résultats des élections régionales, on vous pose la question, est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Ismaël qui nous appelle depuis Massy, qui est routier. Bonjour Ismaël.
Oui, bonjour.
Toi, tu n'as pas du tout l'impression que c'est plié, tu es plutôt côté Emmanuel Le Chypre.
Oui, d'autant que j'adore Laurent, mais là, forcé de dire que
il a tort.
Moi, non, oui, parce que moi, je confonds pas. Moi, je parle avec beaucoup de gens. J'étais voté dimanche dernier, donc sur l'Île-de-France, et puis j'étais voté bon, Pécresse ou la REM, quoi, parce que je voulais pas que cette gauche unie passe. Mais après, ben, ni moi ni mes enfants ont été votés, voilà. Et nous, en Île-de-France, on se fout de savoir ce qui se passe en Bretagne ou en PACA. Je veux dire, c'est des élections régionales qui n'ont pas beaucoup d'importance. Voilà, on voulait pas bouger, ça nous intéresse pas trop. C'est loin de nous, si vous voulez, c'est très loin de nous, de très loin de nous. Les régions, ça nous impacte pas. Ça
du coup, t'as l'impression que ceux qui ont gagné là se voient déjà pour la future étape que c'est trop rapide.
Moi, j'ai vu là. Alors, franchement, j'ai vu. J'ai vu celui de Hauts-de-France, là. J'ai vu
Xavier Bertrand.
Xavier Bertrand, Wauquiez. Alors là, le retour de Wauquiez, alors là, ça mourir de rire. Mais là, franchement, c'est nous, on sait, moi, ma femme, mes enfants, on sait qu'à la prochaine présidentielle, on sait pour qui on va voter et on va y aller en masse. Mais c'est cette élection, pour nous, elle passe complètement à côté. Elle nous touche pas, elle n'est pas proche, elle est très loin, très très loin. Ce n'est pas les municipales.
Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Enfin, tu dis, elle est loin, alors qu'en fait, elle devrait être sur des problématiques plus proches.
Oui, mais moi je pense que si la région Île-de-France est prise par la gauche, bon pas cette gauche-là, mais que ce soit la droite ou un autre parti, l'école sera quand même rénovée, les routes seront faites. Je veux dire, ça nous impacte pas, c'est loin de nous, très loin de nous.
Non mais Ismaël. Moi quand je dis que les cartes sont rebattues, tu seras quand même d'accord avec moi pour dire que les sondages, la petite musique ambiante nous explique en gros que le duel de la prochaine présidentielle, il est déjà réglé comme du papier à musique. Ce sera Macron-Le Pen au second tour. Or, je note que après les municipales et a fortiori après les régionales, t'as quand même une troisième force et Emmanuel a raison. C'est vrai que le pays est à droite et le pays est de centre-droit. Enfin, les résultats électoraux de la droite depuis plusieurs années étaient quand même pas brillants. Oui, il y a eu l'affaire Fillon. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Fillon ne serait sans doute pas parvenu au second tour malgré l'affaire, même s'il n'y avait pas eu l'affaire à cause de ce qu'il proposait. Mais c'est un avis personnel et on fera pas l'histoire, je peux me tromper. Mais là, tout à coup, depuis les municipales et a fortiori depuis les régionales, bah, on se rend compte que la droite est encore très très bien implantée dans ce pays et que si elle arrive à faire émerger un leader, c'est en réalité ce qui lui manque, et un leader qui a un programme et des idées, bah, elle peut très bien bousculer le duo que tout le monde nous présente comme acquis. Voilà. Moi, je dis juste ça. Et en plus, j'ajoute que à chaque élection, notamment pour les présidentielles, à chaque fois, les électeurs ont totalement bousculé tous les pronostics. Je peux te faire l'histoire. Depuis 20 ans, ça ne s'est jamais passé comme prévu. Jamais.
Oui,
c'est tout ce que je dis.
Vrai. Attends, Laurent, c'est pas vrai. Oui. Tu peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, il y a eu quelques exceptions, mais enfin, est-ce que tu considères que le deuxième tour, Sarkozy-Hollande, c'était une telle surprise?
Bah, Hollande, à la présidentielle, c'était pas forcément écrit. T'as eu Macron, t'as oublié
qu'Hollande partait à 3% dans les sondages.
Sarkozy, Ségolène Royal, en quoi c'était, enfin, je veux dire, là, il y a une histoire, chaque campagne a son histoire. Alors que tu me dises un an à l'avance, on sait pas qui sera le candidat, mais enfin, t'avais toujours, finalement, une finale, que c'était, à part l'accident Jospin de 2002.
Je te rappelle que même
t'avais toujours une finale, gauche modérée, droite modérée.
Hors l'accident Fillon. tout le monde pensait qu'Alain Juppé était le futur président de la République, excuse-moi. Et d'ailleurs, Juppé avait déjà plié le match de la primaire à droite.
Parce que là, tu t'acharnes sur les hommes. Mais la réalité, c'est
bien
que...
C'est bien de ça dont on parle.
Non, parce qu'on parle des idées et des camps politiques. Et globalement, t'as toujours gauche modérée face à droite modérée, hormis en 2002. Voilà.
Reste avec nous, Ismaël. On était avec Frédéric qui nous appelle depuis QC dans l'Allier, qui est fonctionnaire. Bonjour Frédéric.
Bonjour tout le monde.
Toi, tu penses que c'est plié ou pas ?
Non, c'est un petit peu mitigé entre l'avis de Laurent Emmanuel, parce que en fait, les gens se rendent pas compte, mais la plupart qui sont allés voter votent pour envisager les présidentielles. Alors que peu importe le président qu'on aura l'année prochaine, le président de région, ça sera toujours le même. C'est vrai que c'est pas évident de voir ce que font les régions ou les départements. Mais de mon point de vue de fonctionnaire, je côtoie beaucoup de collègues de la région ou du département. Et on se rend un peu plus compte de l'importance de ces institutions. Et c'est ça qui est flou, c'est que pour les Français, on ne sait pas exactement pourquoi on vote. Et puis derrière, ça a été un melting pot. Je vois dans ma région, les écologistes, entre guillemets, sont arrivés deuxième derrière Laurent Wauquiez. La problématique, c'est que mon écran de télé n'était pas assez grand pour mettre le nombre de formations politiques qui étaient dans ce mouvement. Il y avait LFI, PCF, PS, Europe Écologie. Donc en fait, on ne sait plus pour qui on vote. On ne sait plus pourquoi on vote vraiment. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Après, voilà, l'année prochaine, on dit Macron-Le Pen. Pourquoi ? Parce que c'est les deux têtes qui sortent d'un parti unique. Mais quand on voit les élections là, avec tellement de cafouillis de formations politiques différentes... Eh ben, on sait plus. Là, les gens, est-ce qu'ils ont voté pour les écologistes, pour le Parti communiste, pour la France insoumise ou pour le Parti socialiste?
C'est vrai que c'est pas toujours très clair, ouais.
Personne le sait. Et du coup, au bout d'un moment, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive avec des élections où on vote pour quelqu'un et non pas des élections où on vote contre quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que les gens sont élus non pas parce qu'on a voté pour lui, pour son programme, mais parce qu'on ne veut pas que son adversaire passe. Donc, on vote contre. Les présidentielles, si je discute avec les gens autour de moi, personne n'a voté pour Macron, mais tout le monde a voté contre Le Pen. Et la problématique, c'est que quand on prend un choix par défaut, c'est le choix entre la peste et la choléra.
Frédéric, c'est vrai de tous les scrutins, c'est vrai de tous les scrutins à deux tours. Au premier tour, tu choisis le candidat qui a le plus tes faveurs, qui est le plus proche de tes convictions personnelles. Et au deuxième tour, quand il en reste plus que deux, tu élimines. Donc tu choisis le moins mauvais des deux si ton candidat n'est pas qualifié pour le second tour. C'est un classique, c'est un invariant structurel.
Pierre Ismaël, juste avant, il a bien dit qu'il allait voter l'AREM ou je ne sais plus quel parti politique parce qu'il ne voulait pas du PS. Donc encore une fois, il a voté pour quelqu'un parce qu'il ne voulait pas de cette personne. Il n'a pas voté pour avoir cette personne au deuxième tour. Il a voté pour éviter que une personne aille au deuxième tour.
Mais Frédéric, tu as l'air de dégager ça d'un revers de main. Mais c'est une conviction comme une autre. Pardon, en Île-de-France, pour ceux qui ne voulaient absolument pas de cette coalition de gauche, c'est parfaitement respectable de dire je vais voter contre, même si je ne partage pas toutes les convictions de celui pour lequel je vais voter.
C'est là où rien n'a changé non plus. C'est qu'en fait, tu découvres quoi ? Tu découvres que les partis de gauche ne sont pas solubles dans une seule grande formation de gauche. C'est-à-dire pourquoi il y a eu un échec de toutes ces coalitions qui allaient de LFI jusqu'aux écolos, c'est qu'il y a des tas d'électeurs de gauche traditionnels qui ne sont pas prêts à voter pour l'extrême gauche, qui ne sont pas prêts à... comme avant.
Tu prends deux régions, mais c'est pas vrai dans les autres. La gauche a gagné 5 régions et dans certaines, elle était coalisée avec toutes les formations politiques.
Écoute, moi je trouve que notamment le cas de l'Île-de-France. L'Île-de-France, tu vois bien qu'il y a des gens qui sont sans doute des gens de gauche qui ne sont pas prêts à voter pour l'extrême gauche, comme avant.
Et on va continuer à parler des régionales et de leur impact sur les futures présidentielles ensemble. Merci beaucoup Ismaël et Frédéric d'être venus débattre avec nous. Dans un instant, on sera avec Bruno Cotrès, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Bruno Cotrès, l'homme le plus pédagogique de France, je te le rappelle Laurent, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Neumann le Chiffre. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chiffre.
Neumann le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Échec du Rassemblement National et de La République En Marche au régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? C'est notre question jusqu'à 13h. Pour Laurent Neumann, oui, le match à 2 est devenu un match à 3 ou à 4. Pour Neumann le Chiffre, non, pas du tout. À un tel niveau d'abstention, cette élection ne signifie rien. Et certains candidats, certaines gagnantes, même préparent déjà la suite. Écoutez, Valérie Pécresse, elle était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin.
Aujourd'hui, je crois qu'on peut plus jouer solo. Notre responsabilité, oui, c'est de nous réunir. Oui. Notre responsabilité, c'est de jouer collectif. C'est de faire émerger la troisième force. Cette troisième force, bah, elle n'est pas cantonnée dans un parti, puisqu'il y a d'un côté les Républicains, mais il y a la Manufacture, il y a Libre, il y a les centristes d'Hervé Morin, il y a les UDI, il y a des talents en dehors des Républicains, et donc c'est un collectif qu'il faut créer. Et une règle du jeu collective.
Alors, quelle
qu'il faut
règle
mettre
du jeu,
en place.
Une primaire?
Voilà Valérie Pécresse qui se donne l'été pour savoir si elle sera candidate à la présidentielle et qui a gagné hier la région Île-de-France.
Pardon, je commente juste ce que vient de dire Valérie Pécresse. C'est pour ça que le match n'est pas plié et que les cartes sont rebattues. C'est qu'il faut que la droite arrive à trouver un mode de sélection de son futur champion. Pour le moment, c'est vrai que Xavier Bertrand a pris un temps d'avance. Même dans les sondages pour la présidentielle, il est donné à 18 quand Wauquiez et Pécresse sont donnés à 13 ou à 12. Mais ça ne veut pas dire qu'il a plié le match pour le moment et qu'il va bien falloir trouver un moyen de choisir le candidat. Mais une fois que ces candidats seront choisis à droite et à gauche, moi je pense que les cartes sont rebattues et que croire que le film est déjà joué d'avance et qu'on connaît la fin par avance, je pense que ce serait une grosse erreur à ne pas commettre là maintenant aujourd'hui.
Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous n'êtes pas d'accord avec ce que tu es en train de dire Laurent, puisque vous êtes 70% à répondre non. Pour vous, les cartes pour la présidentielle ne sont pas rebattues. Vous êtes plutôt de l'avis d'Emmanuel Le Chypre.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Emmanuel qui nous appelle depuis le 15e arrondissement à Paris, qui est chef d'entreprise dans le prêt-à-porter. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Toi, tu penses justement, comme Laurent, que la droite a des choses à faire et qu'il faut qu'elle se reconstruise.
Ah mais moi, je pense et je suis persuadée, et cet avis, je l'avais déjà avant les municipales, que la droite a sa carte à jouer. Mais s'il se focalise sur Xavier Bertrand, sur Wauquiez et Pécresse, ils vont à la défaite directe. Et il y a un personnage, je ne fais pas du tout de politique, hein, mais je m'intéresse vraiment beaucoup. Et en ce moment, je regarde une personne qui s'appelle David Lisnard.
Mmh. Ouais.
Et je pense qu'un
prénom... C'est le maire de Cannes,
c'est ça? Lisnard,
maire de Cannes,
ouais. Et Bellamy, au moins, ils proposent en fait ce que les gens ont besoin. En fait, les gens n'ont plus besoin qu'on leur dise « je votais contre ça, votais contre ça ». Ils ont besoin qu'on leur propose quelque chose, qu'on leur propose un projet. Ok ? Il ne faut pas non plus mettre de côté ses résultats, par exemple en PACA. Oh, ok, Mariani a perdu. Néanmoins, il a perdu seul avec 43% des voix, ce qui me paraît quand même un signal et quelque chose d'important. Donc si la droite refuse d'écouter ses électeurs du RN, qui ne sont pas tous fachos comme on peut le penser, il va à la déroute. Si on écoute ce projet du maire de Cannes, Lisnard, Rutello, etc., il parle un petit peu à ses électeurs de droite, je ne dis pas extrême droite, mais de droite qui ont dans leur tête...
Alors justement, on a Philippe qui est avec nous depuis Cannes, tu parlais de David Lisnard. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous, à toute l'équipe. Là.
Toi, tu es retraité de la gendarmerie. Philippe, ouais, tu entends Emmanuel qui, du 15e, regarde ce qui se passe à Cannes. Il y avait un projet chez toi?
Alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre qu'il y a des Parisiens qui savent que le maire de Cannes a bien sûr un projet, un très bon projet. Moi, j'ai un seul regret pour lui. Bon, il a eu deux, trois derniers propos qui n'étaient pas terribles. Mais c'est vraiment un gars qui peut mettre ses compétences au service de la France. Ça, j'en suis persuadé. Cannes, en effet, oui, c'était un très bon laboratoire. Après que Retailleau et Bellamy viennent se mettre dans la roue de David Lisnard, bon, ouais, je crois qu'il lui faudra quand même quelqu'un de stature nationale à côté de lui pour le faire émerger. Après, pour revenir à votre débat, les amis, moi je dis qu'il n'y a rien qui est joué. Hein. Les élections régionales et départementales, eh ben c'est pas l'incarnation d'une image, hein, d'un visage, comme peuvent l'être les présidentielles. Donc on va voter pour celui qu'on connaît, qui est à côté de soi. On connaît Muselier, on connaît Pécresse, on connaît Bertrand, on connaît Roussel dans le Sud-Ouest. Donc on va voter pour lui. Et les gens qui veulent voter pour ça, ils votent pour les gens qu'ils connaissent. Ils votent pas pour un parti politique, pour Marine Le Pen ou le Rassemblement National. L'année dernière, enfin il y a 6 ans, il y avait Marion Maréchal. Donc elle incarnait quelque chose, c'était un visage, on votait pour elle. Marine Le Pen dans le Nord, on votait pour elle parce que c'était Marine Le Pen. Là, très honnêtement, Chenu, Mariani, ça fait rêver personne, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, les élections régionales, départementales, on en a marre. Il faut la faire, cette réforme territoriale. Ça ressemble plus à rien, notre France. On a les communes, on a les intercommunalités, on a les agglomérations, on a les départements, on a les régions. Stop. Les gens, ils savent plus pourquoi ils votent. Donc, il faut faire une réforme territoriale avec des élections territoriales, la fusion des régions et des départements comme voulait le faire Balladur à une époque, et Sarkozy n'a pas eu le courage de le faire.
Là, tu rejoins Emmanuel Le Chypre, hein, clairement. Toi, c'est ce que tu dis tout le temps. On ne comprend rien à ce que font les régions, et c'est aussi pour ça que les gens ne votent pas.
À un moment donné, il faut être rationnel. Et puis, Emmanuel parle de 7 euros dépensés par les départements sur 100 euros. Mais combien on en donne d'impôts à ces départements, à ces régions, pour des retours pour lesquels on voit des choses, oui, on voit, il y a des trains qui circulent, super, il y a des lycées qui existent, mais personne ne sait que c'est les régions ou les départements qui votent, qui bossent pour le collège et le lycée, personne ne le sait, il y a que les 20% qui vont voter qui le
non
savent.
Non, mais Philippe,
il faut réformer ça déjà.
Philippe, on peut partir. Philippe, on peut partir d'un principe, et toi et moi, je suis sûr qu'on sera d'accord, c'est que les électeurs, ils se trompent pas. Voilà. S'ils ont pas été votés, pardon, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Et moi, j'ai entendu hier soir sur tous les plateaux de télévision des responsables politiques expliquer que l'abstention, c'était la faute du gouvernement qui avait mal organisé les élections, que c'était la faute des sondeurs, que c'était la faute des médias, etc. J'en ai pas entendu un seul dire, mais c'est de notre faute à nous. À nous, responsables politiques.
Ils le disent, mais du bout des lèvres.
Bon, ils le disent tous, mais qu'est-ce que ça, une fois qu'ils ont dit ça, non, qu'est-ce que ça change?
C'est pour ça qu'encore une fois, je trouve que pas grand-chose n'a changé. Pour revenir à ce que disait Emmanuel. Qui est abondance de candidats à droite, bah c'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu beaucoup de candidats à droite. Rappelez-vous la primaire qu'il a fallu organiser en 2017. Donc c'est pour ça que je dis à ce stade. Rien de nouveau. C'est-à-dire, à ce stade, oui, on en est au niveau où on se demande comment on va faire pour sélectionner le candidat de droite. Bah, exactement comme en 2017. Alors, ce qui serait vraiment nouveau, et là où, à mon avis, on
peut... Pas faire de primaire.
Alors, ce qui serait nouveau, c'est qu'on arrête de croire à l'homme ou à la femme providentielle. Là, il y avait des choses dans les propos de Valérie Pécresse. Si, admettons, l'équipe de droite arrivait en disant, voilà, c'est simple, voilà notre offre. On envoie à la bataille présidentielle machin ou machine qui nous représente. Mais on vous présente notre équipe gouvernementale. Voilà.
À
on vous
dit voici le
premier. Nous on cache rien. On vous dit le premier ministre, ce sera machin ou machine. Après, tac, tac, tac. Vous avez voilà. Vous voulez un jeu d'équipe? Vous voulez la formidable équipe de France dont tout le monde parle ce matin?
Non, je suis désolé.
Mais si Laurent, c'est ça la nouveauté, la nouveauté intellectuelle.
Donc toi, Emmanuel, ça te plairait, hein?
Ah mais oui, mais bien sûr, mais les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de transparence, parce qu'en fait, et l'homme providentiel, mais oui, il existe. Certains disent oui, mais Lisnard ou un autre, on ne le connaît pas. Mais qui connaissait Emmanuel Macron il y a 6 ans, mis à part qu'il était un petit peu ministre de l'économie? Mais personne. Les gens ont besoin de nouveautés. Quand même, un jeune qui voit Xavier Bertrand, je n'ai rien contre Xavier Bertrand, mais bon, on a quand même besoin de dynamisme en plus.
Non mais Emmanuel,
Laurent,
Emmanuel,
ça ne fait pas l'idée de mettre le gouvernement à plat.
Et ce programme de présenter tous les gens à l'avance, mais bien sûr, comme ça.
Alors pourquoi tu dis non, toi, Laurent?
Alors Emmanuel, je ne contredis pas Emmanuel, je contredis Emmanuel Le Chip, parce qu'Emmanuel a la raison. Pourquoi pas David Lisnard? Pourquoi pas?
Mais tu vois, toi, c'est l'un ou l'autre, et les autres sont perdants.
Mais alors, je vais te répondre.
En proposition.
Sauf à dire, là, aujourd'hui, 28 juin 2021, on change les institutions, et du coup, on n'élit plus un homme providentiel, tu aurais raison. Mais c'est pas le cas. Pardon. Dans ce pays, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont voter à l'élection présidentielle, ils votent pour un homme ou une femme. C'est comme
tout.
Ça.
Rien n'empêche dans la Constitution.
Tu veux dire, ça sera moi le chef. Constitutionnellement parlant, c'est pas un problème.
Constitutionnellement parlant, c'est pas tu ça. Peux dire, celui qui va à la présidentielle, c'est machin. Mais sachez que si vous élisez machin, vous ne
Philippe
serez pas dans l'espèce
quoi,
de psychodrame non, habituel. Ouais, je choisis qui comme premier ministre?
Vas-y, Philippe.
Ça c'est une vision bisounours, mais...
Est-ce que je peux intervenir?
Oui.
Il y a déjà plusieurs problèmes. Rien n'est joué, pourquoi? Parce que à droite, comme aussi souvent dans les autres partis, il y a un problème d'ego. Il va y avoir une guerre d'ego, pas possible,
ça, c'est
entre
vrai.
Les trois que vous avez cités là.
Donc rien ne change.
Et ça sera hyper difficile pour un gars comme David Lisnard, qui a son propre ego, mais qui lui aussi a ses réussites, d'émerger, à moins qu'il soit porté par tout un parti politique. Et donc ça va être très compliqué. Deuxième chose, rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit poil à gratter, un petit caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, et qui commence à arriver de plus en plus. Monsieur Zemmour, Qu'est-ce qu'il va faire, M. Zemmour? Est-ce qu'il va vraiment se présenter? S'il se présente, je vous dis tout de suite, Marine, elle n'est pas au deuxième tour. Parce qu'il va lui siphonner un nombre pas possible de voix. Donc après, la gauche, la droite, la gauche, les écolos, on les met à part, ils seront jamais au second tour. Mais rien n'est joué.
Non, droite, mais Philippe, il y a des conditions. Philippe, il y a des.
Dans les sondages, on voit que Zemmour siphonnait plutôt
Philippe,
la droite.
Philippe, il y a des conditions. Effectivement, à droite, il faut que la droite se mette d'accord sur un candidat et qu'il n'y ait plus une tête qui dépasse.
Mais est-ce qu'on arrête avec les primaires?
Attends, s'ils refont comme la dernière fois, ils vont à l'échec. Mais je pourrais te dire la même chose de la gauche. Si la gauche n'est pas capable de désigner un candidat qui puisse porter les couleurs de la gauche, mais tu vas avoir une explosion du vote à gauche avec, comme d'habitude, 4, 5, 6, 7 listes différentes. Il ne faudra pas s'étonner que la gauche ne soit pas au second tour. C'est exactement pareil.
Donc,
je te dis juste que depuis hier, il s'est passé quelque chose et que de nouveau, la droite et la gauche peuvent prétendre à quelque chose. Mais il y a tellement de conditions, conditions à remplir qu'on n'y est pas encore.
Eh bien, puisque tu ne veux pas répondre à ma question, est-ce qu'il faut arrêter avec la primaire? Je la poserai dans un instant à Bruno Cotterêts, chercheur au CNRS, qui sera avec nous tout à l'heure. Un grand merci à Emmanuel et à Philippe d'être venus débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On revient sur RMC, vous ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 15h. Échec du Rassemblement National et de La République en Marche au Régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? Pour Laurent Neumann, c'est oui, le match à 2 est devenu un match à 3 ou même à 4. Pour Emmanuel Le Chypre, non, pas du tout. À un tel niveau d'abstention, cette élection ne signifie rien. On va écouter Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui a fait un score assez élevé et qui explique qu'elle a gagné parce que son projet était clair à gauche.
Je ne suis pas de celles et de ceux qui ont été dans le reniement ou dans la confusion. J'incarne cette gauche du réel, écologiste et citoyenne, qui apporte des vraies solutions, qui résout les problèmes du quotidien, mais qui aussi prépare l'avenir. On peut travailler la gauche et la droite ensemble, mais quand on présente un projet, il faut dire quelles sont ses priorités. Et je pense que la clarté, c'est ce qui permettra justement de lutter contre l'abstention qui vraiment mine notre démocratie et notre République.
Tiens, on parlait de David. Delga, c'est peut-être la quatrième.
On parlait de David Lisnard à droite. Pourquoi ce serait pas Carole Delga à gauche? Pardon, j'ai regardé les chiffres hier soir. Il n'y a pas un candidat ou une candidate de gauche qui a fait son score. C'est incroyable.
Elle a une particularité, Carole Delga. Si elle a émergé au niveau national en politique, c'est qu'à toutes les élections auxquelles elle a participé, elle a toujours fait un carton. C'est comme ça que François Hollande l'avait repéré, parce qu'au niveau local, elle avait fait des scores exceptionnels, et elle continuait à faire des scores exceptionnels. Donc il y a bien un talent, Carole Delga.
Vous y croyez. Nous, Bruno Cotterêts est avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. C'est quoi la gauche du réel, Bruno Cotterêts?
Ah, la gauche du réel.
C'est pas les écolos?
Qui, je crois, continue d'exister, c'est en partie les écolos, mais c'est pas que les écolos, et c'est pas tous les écolos, sans aucun doute, qu'on peut qualifier de, entre guillemets, gauche du réel, à condition de se mettre d'accord sur l'expression, évidemment. Je pense qu'hier, on a vu que c'est vraiment intéressant ce qu'on a vu dans les élections régionales. On a vu que pour le Parti Socialiste, effectivement, ce Parti Socialiste qu'on avait dit complètement à terre, complètement en lambeaux en 2017, il a déjà conservé les régions qu'il dirigeait. Certes, il n'a pas été en position de conquête, ni les écologistes, dans des régions qui étaient plutôt des régions qui n'étaient pas acquises pour eux. L'équation n'a pas forcément fonctionné, mais on voit que dans les régions où il y a eu de la dynamique d'alliance, de fusion à gauche, ils ont retrouvé leur score des différentes listes de premier tour. Donc, c'est une information qui n'est pas inintéressante pour la gauche.
Oui, mais justement, Bruno, est-ce qu'au-delà de l'écume parisienne et médiatique, ça montre pas que l'équilibre politique du pays, finalement, n'a pas tant changé que ça et qu'il reste à peu près le même? C'est-à-dire que la gauche reste ce qu'elle est et la droite républicaine qu'on a pu voir un peu faible. Il y a eu l'effet Fillon à la présidentielle, mais que la France reste finalement un pays de gauche modérée et de centre-droit modéré.
Ce qui est certain, c'est que les formations politiques des deux grandes familles qui sont issues au fond du 19e, 20e siècle, la gauche et la droite, ont montré que ça existait toujours. Et vous avez raison, il y a beaucoup de stabilité. Quand on regarde les corrélations entre les votes qui ont été exprimés hier et les votes antérieurs à des séries d'élections nationales ou locales, on voit qu'il y a eu effectivement beaucoup de stabilité, y compris quand on regarde au niveau des élections départementales. Donc on voit que pour bousculer tout ça, pour l'élection présidentielle, c'est possible grâce à une équation personnelle, par exemple celle d'Emmanuel Macron en 2017, qui incontestablement est venue totalement perturber et bousculer, mais très vite, eh bien, la dynamique de stabilité et de retour à une certaine forme d'ordre électoral vient se manifester dès les premières élections qu'a connues Emmanuel Macron. Au fond, il y a à travers la séquence municipale de l'an dernier, régionale, départementale, cette année, mais même avec la très forte abstention dans tous les cas de figure, il y a effectivement comme une sorte de retour ou de maintien d'une forme de stabilité politique en France.
Bruno, jusqu'à présent, c'était les questions faciles. Maintenant, la question difficile. Est-ce que, oui ou non, le scénario de l'élection présidentielle de 2022, le duel que tous les sondages annoncent depuis des mois et des mois, Macron-Le Pen, est-ce que ce scénario est écrit ou pas ? Autrement dit, est-ce que les élections intermédiaires qu'on vient de voir, municipales, puis régionales et départementales, rebattent les cartes ou est-ce que le scénario est intangible à l'heure qu'il est ?
J'ai toujours dit dans mes interviews qu'à mes yeux, l'élection présidentielle de 2022 n'était pas du tout jouée, qu'elle serait une élection très compétitive, très concurrentielle. Non seulement il y a des poids lourds qui vont se présenter dans cette élection présidentielle de 2022, mais il y a des éléments de ce qu'on a vécu en 2017 qui ne seront plus présents. Il n'y aura pas, sauf surprise majeure, un nouveau Penelope Gate. Il n'y aura pas, sauf surprise majeure, une candidature socialiste improvisée à la dernière seconde suite au renoncement de François Hollande. Ce sont deux éléments qui ont fortement pesé, bien évidemment, en 2017. L'élection de 2022 n'est pas jouée. Cette séquence élection régionale et départementale aura des conséquences sur la préparation de la présidentielle, mais aussi sur la stratégie et je dirais même sur la psychologie de certains des principaux compétiteurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Ils ne vont plus exactement avoir le même état d'esprit, ils ne vont plus être perçus exactement de la même manière par les électeurs. Donc il y aura un effet de ces élections sur la préparation de la présidentielle et sur les stratégies des acteurs.
On a vu qu'aux primaires de droite comme de gauche sur les dernières élections présidentielles, ça faisait émerger des candidats qui après ne trouvaient pas du tout leur place dans l'élection. Est-ce qu'on va arrêter avec les primaires ?
C'est pas totalement gagné encore qu'on arrête avec les primaires. Du côté des écologistes, on semble quand même se diriger vers une primaire. Yannick Jadot n'est pas arrivé à tuer le match en matière de popularité et d'intention de vote dans l'opinion. Donc il y aura sans aucun doute une primaire du côté des écologistes. La question reste entière à droite, même si on voit que le résultat des élections régionales va sans doute quand même un peu éclaircir le tableau. Sans aucun doute qu'une partie des Républicains souhaite une primaire. N'oublions pas que pour cette famille politique, néanmoins, la primaire reste associée au gros traumatisme de 2017. 4 millions d'électeurs qui se sont déplacés aux deux tours de la primaire de la fin de l'année 2016 et finalement une explosion en plein vol de François Fillon.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Gautresse, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique.
Et lui, il répond même sciences aux questions difficiles. Oh. Hein.
Bien sûr, il n'a peur de rien, Bruno Gautresse. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Laurence qui nous appelle depuis Blois. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Toi, tu es conseillère en assurance. Tu es plutôt comme Emmanuel Le Chypre, mais tu n'as pas réussi à convaincre ta fille d'aller voter, même si elle avait 18 ans.
Tout à fait, absolument. Et pourtant, c'est un acte que j'ai toujours fait dans ma vie, d'un esprit citoyen, esprit de civisme. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre, tout simplement parce que, comme je l'expliquais, à aucun moment, sur les plateaux télé ou même au niveau local, on a invité un conseiller départemental, un conseiller régional, à expliquer le fonctionnement du département, de la région. On en a fait un débat national à chaque fois, sur des thèmes nationaux. Et donc, à un moment donné, elle m'a posé la question en me disant, mais qui sont mes conseillers départementaux, mes conseillers régionaux? C'est qui? Donc, bah, forcément, elle n'allait pas aller voter pour des gens qu'elle ne connaissait pas ou aller... Enfin, voilà, donc...
Est-ce que c'est pour ça qu'elle va voter?
Qui fait quoi?
Mais pour la présidentielle, voilà. Elle ira voter.
Ah, pour les présidentielles? Ah oui.
Là, oui.
Ah oui. Ah oui, et je sais pour qui.
Là, elle sait déjà. Elle est.
Ah,
elle
oui,
est...
Oui. Ah oui, oui.
Donc, oui, donc elle ira voter pour un. Elle ira voter pour un candidat qui est déjà déclaré, si elle sait.
Bien sûr.
D'accord, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas déclarés encore.
Alors, attention, non, pas forcément pour le candidat, mais pour le parti.
Ouais, c'est qu'elle votera républicain, écolo, socialiste voilà,
c'est
ou...
ça. C'est ça,
Macron.
Exactement. Ouais. Et autour d'elle, c'est pareil. Dans ses camarades, je vois bien comment je cerne bien. Moi, en plus, je suis une ancienne militante. Donc, voilà. Donc, je vois bien qu'ils sont prêts à aller voter. Ça, c'est une certitude. Mais hier, bah non, effectivement, hier et dimanche dernier, bah non, pas donc.
Mais Laurence, est-ce que tu fais partie de ceux comme Emmanuel qui disent qu'au fond, ce qui s'est passé hier ne change strictement rien et qu'au fond, on se dirige vers le match qu'annoncent les sondages, etc. Ou est-ce que tu penses que les cartes peuvent être rebattues, ce qui est moi plutôt mon avis, oui.
Ah mais les cartes, elles vont, moi pour moi, elles vont être rebattues. Je pense pas du tout qu'on assiste à un débat Le Pen Macron. D'abord parce que moi je suis persuadée que Emmanuel Macron ne va pas se représenter. Pourquoi? Parce que la colère, elle est toujours présente, même si effectivement là elle s'est pas manifestée par le vote du Rassemblement National. Mais les gilets jaunes, je pense qu'ils sont pas éteints. Les problèmes socio-économiques, ils sont toujours là. Et je pense qu'à la rentrée, ça va être, à mon avis, un petit peu difficile. Si en plus on a le Covid par-dessus, alors là, voilà. Et je pense qu'effectivement, comme Emmanuel Macron n'a pas su, en 5 ans, se constituer un socle, une base, constituer un parti, et d'ailleurs on le voit à ses résultats, il est que tout seul. Il n'a été élu que sur sa personnalité, et aujourd'hui, il se retrouve tout seul.
Les élections n'auront évidemment pas permis de faire émerger des hommes de Macron à la tête des régions, mais localement, il y a de plus en plus d'élus.
Ah oui, oui, parce que ça, on ne le dit pas, mais la République En Marche va avoir des centaines d'élus départementaux et régionaux. Mais en revanche, là où Laurence a raison, c'est que le parti, lui, n'a pas de réel ancrage local. Il n'y a même pas un exécutif local au nom de la République En Marche. Ça,
merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip. Quel est le résultat de nos votes à nous, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 67% à avoir répondu non, comme Emmanuel Le Chip. Ou bien vous trouvez que les cartes pour la présidentielle ne sont pas rebattues.
On va jouer aussi quoi?
Alors que les Français ne veulent pas du match Macron-Le Pen. Ils continuent à dire dans les sondages qu'ils voteront pour eux, mais ils n'en veulent pas normalement. C'est intéressant.
Peut-être qu'on leur propose pas d'autres noms. Est-ce que David Lisnard a été proposé? Carole Delga? Non, bon bah alors, c'est pas fini. Allez, on va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue avec Aurélie et Myriel. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Aurélie, tu es à Saint-Romain-la-Motte et tu es coiffeuse. Myriel, tu es à Marseille et tu es infirmière. Aurélie, tu es la première à avoir envoyé ton SMS. Tu veux jouer avec Emmanuel ou avec Laurent?
Avec Emmanuel.
Ouh. Alors, là là, Emmanuel, Aurélie et Laurent, Myriel.
Salut,
c'est parti.
Myriel.
On joue pour gagner une semaine de vacances.
Là, je vais faire le max.
Dans les résidences Noémie, c'est à la montagne. Première question, entre Aurélie et Myriel, quelle équipe affronte, on n'oublie pas de buzzer avec son prénom, hein, quelle équipe affronte la France
Aurélie,
ce soir?
Myriel.
Aurélie.
La Suisse.
La Suisse, absolument. Putain,
Aurélie,
quart
on est bien
de...
parti.
Ah ouais, Myriel, c'est un sport de rapidité.
Deuxième question entre Laurent et Emmanuel, qui a remporté son 20e.
Manu.
Vas-y.
Novak Djokovic.
C'est pas du tout ce sport.
C'est n'importe quoi. Tu peux me poser la question à moi, que pour moi.
Qui a remporté son 21e bouclier de Brennus vendredi soir au Stade de France?
Toulouse.
Toulouse, le Stade Toulouse. La réponse est donc...
Je suis désolé, je suis tellement traumatisé, Aurélie.
Question entre...
Peut-être que Laurent répond tout de suite.
Aurélie et Myriel, qui est Mathieu Van Der Poel, qui a remporté hier la deuxième étape du Tour de France et qui s'est emparé du maillot jaune. C'est le petit-fils de quelqu'un.
Myriel.
Vas-y.
Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Un cycliste ancien,
Oui.
Belge.
Non, français.
Non, mais non, c'est bon. Aurélie, vas-y, tu peux Poulidor. Le dire. Hein.
C'est Aurélie qui a dit Poulidor?
Non, c'est moi, Myriel.
Ah, Myriel, c'est toi. Bah, j'avais pas entendu.
Effectivement. Bravo, Myriel.
Poulidor qui était français, mais Mathieu Van Der Poel, il est néerlandais.
Néerlandais. Oui.
Néerlandais.
Question entre Laurent Emmanuel, qui est le ministre britannique de la Santé, qui
Laurent.
A démissionné.
Matt Hancock.
Alors ça, c'est bravo. Hein. Pour non-respect des règles sanitaires, que mais tu aies le nom, c'est bravo.
Non, mais surtout, il a fait un truc terrible. Il a embrassé une femme qui n'est pas la sienne. Ça la fout mal. D'accord. Ça la fout mal.
D'accord. Donc, il est viré pour non-respect des règles sanitaires parce qu'il a embrassé une... Non, c'est vrai?
Bah oui, parce qu'il a embrassé une femme qui n'est pas la sienne. Non, c'est pas une blague.
C'est pas les règles sanitaires.
Non, mais ça fait un scandale. Mais si, ça fait un scandale dans la presse britannique. Il a été obligé de démissionner.
Je vais me pencher sur cette histoire, ça a l'air croustillant. Question entre Aurélie et Myriel. Quelle ville australienne a été reconfinée pour lutter contre le variant Delta?
Je sais plus.
Il y a un opéra.
C'est la plus connue.
Vas-y, Myriam, essaye.
Quelqu'un connaît
plus.
J'ai oublié.
Aurélie, la plus connue.
J'ai oublié.
C'est Sydney, le point ne va donc à personne. Oh, dernière qui
L'Australie, non.
L'Australie, c'était la question. Oui, je l'ai dit, t'arrives trop tard. Je viens de le dire. Question entre Laurent et Emmanuel. Elle a été exclue de l'ordre de la Légion d'honneur en raison de sa condamnation.
Manu, c'est Madame Balkany.
Absolument, mais ça ne te fera pas gagner le
Cyclocross. Non, mais au moins,
c'est Myriel qui gagne sa semaine de vacances.
Bravo Myriel, t'as gagné.
Désolé Aurélie.
Une semaine de vacances. Tu pourras choisir entre les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Savoie ou les Alpes du Nord. Une semaine de vacances pour 4 personnes dans les appartements Mona Lisa. Bravo à toutes les deux d'avoir joué avec nous. On rejouera demain, on sait quoi ça? Il n'y a pas de jingle. Eh ben, c'est pas grave. On va enchaîner sur RMC, sur RMC
jingle.
Story. Jingle. Dans un instant, où est-ce que vous déjeunez? Comment? Avec qui? Est-ce que vous êtes devant la télé?
Non,
vous êtes
on ne déjeune pas, on dîne.
À table, on peut déjeuner, on peut dîner, enfin, en famille, vous êtes libre. Manger, ça te va?
Personne, non, mais personne ne déjeune en famille le midi, en semaine.
Ah, bah, avec la crise sanitaire, détrompe-toi. Il y en a eu des déjeuners en famille.
D'accord.
Parfois, d'ailleurs, un petit peu trop. On vous attend au 32-16 pour nous raconter comment vous dînez en famille. À tout de suite sur RMC, sur RMC Story.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux, on est toujours ensemble jusqu'à 14h, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h effectivement sur RMC, sur RMC Story. La tradition du repas familial à table se perd. Est-ce que ça vous inquiète? C'est notre question à 14h. Il y aura quoi? Il y aura du vélo. Mais non,
mais non, du vélo.
C'est du vélo.
C'est le Tour de France.
Intégral Tour avec Christophe Cessieux tout à l'heure. Mais juste avant, c'est bon
attends,
à savoir.
Attends, je peux même te dire que l'étape d'aujourd'hui, elle va de Lorient à Pontivy. Et
mais
ça, tu le savais
c'est
pas.
Des choses. Bah si, je le savais, figure-toi, parce que c'est mon travail de savoir ce genre de choses. Lisa Marie, on va parler de quoi aujourd'hui dans C'est bon à savoir?
Si je vous dis que l'agriculture bio et locale pourra nourrir l'Europe, toute l'Europe, d'ici 2050, vous allez me dire que c'est une utopie. Eh bien non, d'après une étude, ce sera possible. Et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
Mais avant, peut-être que vous êtes à table, en tout cas vous êtes peut-être en pause, déjeuner, en train de nous écouter. Nous allons parler de la tradition du repas. Selon une étude publiée dans Le Parisien, la crise sanitaire a fait changer les pratiques alimentaires. Manger seul, c'est plus du tout une honte, c'est même un plaisir. 73% des Français de plus de 18 ans pensent que les repas pris seuls devant les écrans sont de plus en plus fréquents. Ils aiment ça car à table, ils s'ennuient, au moins devant une série, ils prennent un petit plaisir. Ils se font même une petite fête personnelle, va nous expliquer dans un instant notre invité Ronan Chastelier, sociologue et maître de conférence à l'IEP de Paris. Vous allez nous expliquer comment se déroule cette petite fête. Mais avant notre question, la tradition du repas familial à table se perd. Est-ce que ça vous inquiète? Laurent, toi, tu es très inquiet.
Ah non, mais moi, je suis surtout très, très, très dîner familial. Alors, c'est vrai que mes enfants ont quitté le foyer. Ils vivent leur propre vie maintenant. Mais quand ils étaient sous le même toit que nous, bah oui, le dîner, c'était un rituel, absolument. Il fallait dîner. Et quand je dis dîner, c'était dîner sans téléphone, dîner sans la télévision, dîner pour partager.
Donc, à table.
Oui, la table, tous les quatre, etc. Avec des règles, absolument. C'était le moment où on se retrouvait pour échanger, partager. C'est ça, un dîner familial. En plus, je pense que contrairement à ce qu'on dit, le dîner, c'est pas juste le dîner tous les quatre à table. Le dîner, il commence avant. Il commence quand on prépare le dîner, la cuisine. Il commence quand on met la table. Et il se termine même pas quand on a fini de manger, mais faut débarrasser. Donc
ça dure 2 jours.
Le dîner, c'est un ensemble de choses.
Tout le monde mange la même chose. C'est très important.
Et tout le monde mange la même chose, absolument, oui.
Emmanuel, chez toi, c'est le bazar.
On a eu toute la saison l'économie Belle des Champs. Maintenant, on a le dîner, la mire et Corée. C'est-à-dire, en gros, c'est le paradis.
Non,
chez
c'est
les
pas
deux
ça,
man.
C'est une pub Nutella.
Mais non, mais arrête, attends, tout le monde prépare le dîner, tous en famille. Et puis après, on débarrasse ensemble, on fait la vaisselle dans la bonne humeur, on a ri. On a tellement ri. Et passé un tellement bon moment. Sans la télé, sans les téléphones. Non, mais alors, c'est
et
monsieur
après,
parfait, Laurent, ça, c'est sûr.
On appelle les.
Non, mais t'as le droit d'en rire.
Mais non, mais franchement, mais la réalité, Laurent, très bien, si ça se passe comme ça, c'est... Mais la réalité, c'est pas celle-là. D'abord, le rapport à la nourriture, il a considérablement changé. On est passé, en gros, d'une économie de l'offre à une économie de la demande. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, les repas
c'est
à table.
Même à table, tu fais l'économie.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait, c'est qu'à un moment, on était tous réunis à table pour manger ce que la nature nous offrait. Il y avait pas un choix illimité. Maintenant, il y a un choix absolument illimité. Deux, les emplois du temps aujourd'hui, je suis désolé, font que si tu as la chance d'avoir tes deux parents qui rentrent à la maison avant 18h, bah je pense pas que ce soit la majorité des familles. Donc le repas préparé, machin et tout, etc., où tout le monde mange à table, je pense que c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de familles? Bah on fait manger les enfants d'abord et c'est pas très grave. On peut discuter avec eux pendant qu'ils mangent. Et puis toi avec ta femme, tu manges après. Ce qui est très bien aussi pour ta vie de couple, parce qu'il y en a marre de des mômes qui bouffent toute ta vie, si tu veux. Et puis tu crois que les gens ils ont des trucs intéressants tous les soirs à raconter?
Est-ce que tu crois
que les gens, le sacro-saint dîner de famille, mais la réalité, est-ce que les gens ils ont tous les soirs des trucs intéressants à dire?
Bah, chez nous,
non. Mais mes journées sont très intéressantes.
Tu demandes à ton gamin s'il a passé une bonne journée, il dit oui, t'as mangé quoi à la cantine? Je sais plus. Enfin, tu vois, voilà, à un moment, ça, cette espèce de sacralisation, d'idéologisation du repas de famille, franchement, moi je veux bien. Et puis alors, est-ce qu'on est obligé de manger tous pareil? Bah, franchement, non. Moi, je pense qu'on est obligé de manger sain. Ça, oui. Et moi, j'ai des enfants. Par exemple, ce week-end, j'en ai un qui adore la purée de céleri. J'en ai un autre qui la déteste et qui préfère les petits pois. Bah, avec le même poisson, il y en a un, je lui ai fait des petits pois et l'autre, je lui ai fait de la purée de céleri. C'est
pas Emmanuel, ça me paraît pas. Je savais qu'on s'engueulerait sur la politique, mais je pensais pas qu'on allait s'engueuler là-dessus. C'est pas la peine m'aboyer dessus.
Tu es très méchant, Laurent de Man. Tu es méchant.
Et puis, franchement, je trouve que cette histoire de repas de famille, c'est une bonne façon. On se dit, ah, on fait nos repas de famille ensemble. Mais le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Le reste du temps, est-ce que t'échanges? Le reste du temps, est-ce que tu partages des moments? Donc, je trouve que se dédouaner avec genre, on fait le repas de famille, etc. Bah, je pense qu'une fois que t'as fait ça, t'as pas tout fait. Et voilà. Et je pense qu'en plus, quand tu regardes, je termine avec ça, ce que disent beaucoup de psychologues que j'ai lus, ils te disent, mais surtout, faut pas aborder le soir les sujets qui fâchent. Alors, de quoi on cause?
Non, mais je vais te dire,
tu n'abordes pas les problèmes scolaires des enfants à table. C'est pas vrai, c'est pas bien pour eux.
Mais alors, sociologiquement, c'est intéressant,
quand même. C'est bon.
Alors Ronan Chastelier, vous êtes sociologue. Il y a quand même Emmanuel qui engueule Laurent parce que Laurent mange à table. C'est quand même sociologiquement intéressant.
À propos d'engueulade ou du dîner
Pourquoi il
y a aussi une sociologie du fight. On peut en parler. Mais je pense qu'effectivement la sacro-sainte convivialité à table, etc. Je crois que c'est une vision peut-être un peu idyllique. Et effectivement les choses ont passablement changé. Déjà il y a le téléphone à table. Enfin je veux dire.
Interdit chez moi, totalement interdit. Vous faites comme vous voulez chez vous. Moi, j'ai le droit de dire
c'est
téléphone à table.
C'est une pratique des Français, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui s'ennuient à table. Il faut bien le dire. Puis les parents aussi donnent l'exemple. Parfois, ils téléphonent, puis les enfants regardent les parents téléphoner, etc. Donc, il y avait déjà le téléphone à table qui avait été un bon vieux coup de pied dans la convivialité familiale. Et là, il y a effectivement le phénomène nouveau qui est Netflix plus Deliveroo égale plaisir solitaire, joie solitaire à table. Enfin, je cite deux marques parce qu'elles sont un peu iconiques, mais si vous voulez, il y a comme ça une envie chez beaucoup de gens de se construire une espèce d'anti-moment. La convivialité obligatoire, le collectif obligatoire après les longues périodes un peu ennuyeuses du confinement, il semblerait que ça ait donné ça, en fait. Dialectiquement, on est passé à quelque chose qui est, si on se faisait un pur plaisir solitaire, là, un espèce de plaisir antisocial assumé, voilà, c'est ça l'idée, en fait, qu'il y a derrière, mais qui va aussi de pair avec des dîners un peu plus conviviaux, etc. Ça ne veut pas dire que le repas antisocial va remplacer l'autre, qui est éminemment plus convivial. Je pense qu'il y a une double tendance.
Un instant, je vais vous prendre un exemple très concret. Ce soir, match de foot de l'équipe de France. J'ai pas vu mon fils depuis 8 jours. Je lui ai donc passé un coup de fil en lui disant, est-ce que tu viendrais pas voir le match avec moi ce soir? Il m'a dit, mais oui, évidemment, avec plaisir. Et je lui ai dit, viens à 20h, on dîne et après on voit le match. Mais si on regarde, on se colle devant la téloche pendant 2 heures et qu'après il me dit écoute, je suis désolé, je suis obligé de rentrer, il est déjà 23h30 et qu'on n'a pas échangé un mot, c'est moins sympa.
Oui, mais bon, avant on avait le JT, on avait le droit de parler pour le JT.
La réalité, c'est que t'as 90% des gens, c'est comme dans la chanson de Brassens, 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, et par 90 ou 95 fois sur 100, les gens s'emmerdent pendant les dîners de famille, les dîners du soir.
C'est très juste.
Mais oui,
sur la première ou la deuxième partie.
Si la pratique du téléphone a autant explosé à table, c'est c'est bien que les gens, ils ont rien à se dire. Mmh. Tout le monde n'a pas la conversation de Laurent Neumann.
Ça, c'est un morceau de sociologie spontanée. Je suis complètement d'accord avec vous.
Tout le monde n'a pas envie d'écouter les leçons de morale du père de famille ou de la mère de famille.
Mais détrompe-toi,
sans pouvoir donner son avis avec les gamins.
C'est lui qui apprend. T'es à côté de la plaque. Totalement.
Si
tu vas me laisser aller au bout, tu es à côté de la plaque.
Je vais vous départager.
Non, mais t'es à côté de la plaque. Parce que moi, le plaisir du dîner à table, c'est pas moi d'aller faire la morale à mes gosses. C'est d'écouter ce que eux ont à me dire. Ce qui leur arrive à eux. C'est mille fois plus intéressant que ce que moi j'ai à leur dire.
C'est vrai qu'en France, on est quand même dans le pays de la convivialité, l'art de la conversation à table. En fait, c'est un peu historique, quoi, si vous voulez. Mais malgré tout, il y a une espèce de nouvelle joie un peu hédoniste là, qui arrive, qui est le plaisir solitaire.
Ouais, c'est
avec sa série et son propre dîner.
Je vous propose un nouveau concept, c'est l'onanisme culinaire. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans son coin, c'est les plaisirs solitaires, évidemment. Bah, on a le droit de préférer des plaisirs un peu plus collectifs.
On peut tout faire, c'est ça l'avantage.
Bah oui, évidemment.
On a le droit à la petite gâterie contemporaine.
Après discuter de sa série, je crois qu'on a saisi la métaphore. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux sociaux.
Oui, je vous rappelle notre débat. Est-ce que ça vous inquiète que la tradition du repas familial à table soit en train de se perdre? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann Le Chypre
32-16. Et on est avec Jérémy qui nous appelle du Pourtoisan. Voilà. Lisa Marie, est-ce que tu es toujours vivante?
Non, elle n'est pas tombée, il n'y a pas de blessure.
Bonjour Jérémy.
Bonjour tout le monde.
Toi, salut, tu es Jérémy. Chauffeur poids lourd. Est-ce que chez toi, on mange à table? Est-ce que tu as des enfants ou tu manges seul avec quelqu'un?
Alors, désolé, je vais vous décevoir, je n'ai pas d'enfants.
Ah, c'est pas grave, tu peux rester quand même, tu sais, Jérémy. Mais est-ce que tu manges quand même à table?
Ben, nous, on mange à table avec ma femme, et ce qui est normal, la moindre des choses, nous, on a des bouts. Alors, là où ça peut effectivement être un problème chez nous, c'est le travail. Le travail, on ne finit pas toujours à la même heure, on n'a pas d'emploi du temps fixe, donc du coup, on fait en fonction de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, tout ça se perd, mais nous, on s'attend toujours pour manger. Il y en a toujours un qui arrive, qui commence à préparer à manger pour l'autre, et dès que madame ou monsieur arrive, et ben une petite douche et on se retrouve en amoureux.
Et vous mettez un couvert?
Ah bah non, mais deux couverts.
Non mais deux couverts, non mais vous mettez couverts. Non mais vous mettez deux couverts. Vous mangez pas dans la casserole, quoi.
Non, on mange pas dans la casserole. Et là où j'étais d'accord avec Laurent, il manque un peu de juste milieu. Nous, effectivement, on regarde la télé. Ça nous permet de débattre, de regarder l'actualité. Nous, il y a quand même cet esprit, on mange ensemble, on est quand même côte à côte, mais en regardant la télé. Mais voilà, il y a toujours un juste milieu, mais on n'est pas éteint chacun de notre côté avec notre téléphone. Ça, c'est impensable.
Regardez la télé, ça permet de discuter. C'est pas forcément
des
que des enfants. Ça fait aussi des sujets
l'actualité.
Comme le téléphone. Aujourd'hui, ils ont Instagram pour commenter, si vous voulez.
Mais oui, bon, mais regardez,
c'est vrai que la télé, c'est comme un truc plus ancien. Après,
Oui, vas-y, Jérémy.
Regardez, par exemple, aujourd'hui, la politique, tout le monde se désintéresse. Mais nous, justement, on en débat un petit peu à la télé, le pourquoi du comment. Donc, quelque part, c'est pas intéressant, mais on s'y intéresse quand même. Sinon, on s'ennuie, quoi. Si on est face à face...
Tant pis, raconter sa journée, c'est pas toujours, il se passe pas. Bon, à Paris, si, où il se passe des trucs extraordinaires, mais sinon...
Au travail, on rentre avec ce que t'as fait aujourd'hui.
Moi, je dis Emmanuel, il s'est énervé, il s'est fâché contre Laurent, c'était pas gentil.
Mais il nous a déjà dit ça hier, maman.
Non, mais pardon, il y a raconté sa journée, mais il se passe des choses autour de nous, on peut en discuter, on peut en débattre.
Laurent, non. Fantasme.
Moi, à leur âge, on débat, c'est pas si, on débat.
Oui, mais ils sont petits, les tiens.
Ils étaient obligés,
elle avait rien, elle pouvait pas parler à table, ils regardaient la télé, ils pouvaient pas parler à table.
C'était chez mes grands-parents. C'est vrai, on regardait comme ça religieusement la télévision. Mais bon, c'est fini tout ça. Maintenant, j'ai grandi. Allez, on va aller voir Ludovic qui nous attend à Nogent, c'est dans la Haute-Marne. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Toi Ludovic, tu es bûcheron et chez toi avec tes enfants, vous dînez à table tous ensemble.
Ah oui, après on vit plus. Nous on est à la campagne, on n'est pas comme vous à Paris, on n'a sûrement pas la même vie, on a des heures qui sont sûrement plus... correct pour rentrer le soir.
À quelle heure tu rentres chez toi le soir, Ludovic?
19h en moyenne.
À Ludovic, tu lui dis pas que c'est la famille Ricoré,
mais
la
c'est
famille.
Tard, 19h
je sais pas
pour
quoi.
Pour
non,
rentrer,
à lui, tu lui dis rien, lui. Tu vois? Je suis pas le seul, visiblement. Hein?
Non, mais voilà, après on fait à manger, on mange à 8h, tous ensemble. Moi j'ai ma fille, elle a 15 ans, elle me raconte ce qu'elle a fait au collège. J'ai le plus petit qui a 12 ans, pareil, il raconte sa journée. Enfin. Et ouais, déjà on mange sans la télé, sans les téléphones, c'est pareil.
Et personne ne râle, à 15 ans, il dit pas « Ouais,
je vais manger tout seul, t'as vu ?»
Ils ont pas le choix, c'est comme ça.
Renan Chastelier, juste une question sur l'organisation des repas. C'est vrai que ça s'est simplifié quand même de faire à manger aujourd'hui. On a moins, on prend moins de temps, on peut commander, il y a des choses qui sont préparées. Est-ce que du coup, ça a enlevé du rituel?
Ah ouais, je pense que ça, en fait, ça enlevait un peu de magie.
Non, c'est-à-dire que t'es pas livré par Deliveroo. Hein.
Ah oui, bah toi, oui, c'est sûr. Sinon, c'est sûr. Mais ailleurs, ça s'est quand même un peu simplifié.
Mais y a, encore une fois, il n'y a pas une tendance monolithique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer du temps en conversation et en préparation sur les repas. Et puis à côté, il y a cette tendance-là qui coexiste avec l'autre, hein, qui est, ah bah voilà, je vais me faire un pur plaisir solitaire parce que j'en ai provisoirement marre de la convivialité et de la conversation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un choix définitif, si vous voulez. On peut revenir à la conversation et...
Le lendemain.
Voilà, il n'y a pas d'antinomie, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est identifier quand même que là j'ai fait un sondage sur pour président là avec Opinion Way sur les Français les plus de 18 ans. Moi je suis persuadé si vous voulez que si j'avais comme échantillon les 16-25 ans, les chiffres seraient encore plus puissants. C'est-à-dire que c'est une pratique de jeunes en fait. Et comme il y a un gros mouvement de post-adolescence dans la société aujourd'hui, ces pratiques-là sont très répandues chez les 18 ans et plus. Quoi. Alors, cette habitude qui consiste à zapper de plus en plus son repas en famille ou en collectivité et finalement à se retrouver seul avec un pur plaisir, aujourd'hui considéré comme tel, non pas la lecture, mais la série.
C'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer exactement le mouvement inverse dans une société qui est de plus en plus individualiste, où on déjeune seul. Où on dîne seul, où on regarde la télé seul, où on fait beaucoup d'activités seul. Peut-être que l'envie, au contraire, de se retrouver, le dîner de famille, pardon, ça peut être un dîner entre amis aussi, ça peut être un dîner avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Bah, du coup, c'est peut-être aussi une demande qu'on essaye de retrouver, justement parce qu'on passe sa vie seul.
Mais avec les pique-niques auxquels on va assister avec ou sans masque cet été, il va y avoir une véritable sociologie de plein air qui va être déployée. Et donc, on va peut-être renouer avec ce plaisir. C'est sûr qu'on va pas regarder en plein air sa série seule dans son coin avec son déjeuner. Donc là, il y a une possibilité, probablement.
Et je tiens à vous dire que j'ai une très, très belle nappe à pique-nique que je pourrais peut-être vous montrer lors d'une émission
Ludovic
prochaine.
Ludovic, t'as dit, Deliveroo, c'est bien, mais pour les citadins. Hein, parce que lui, Ludovic, pour son dîner, il fait pas appel à des boîtes extérieures.
Et c'est logique.
C'est bien.
Aussi en osier.
C'est bien de s'en souvenir.
Je n'ai pas de panier en osier,
les assiettes.
Non, mais j'ai du matériel à pique-nique. Je pourrais t'inviter à venir.
J'adore ça.
Merci beaucoup, Ludovic et Jérémy, d'avoir été avec nous au 32-16. On va continuer à discuter du repas familial qui se perd à table. Est-ce que ça vous inquiète? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. La tradition du repas familial à table se perd. Est-ce que ça vous inquiète? Emmanuel est en train de mimer, car on a cherché pendant la pause des sujets de conversation pour vos repas en famille. Si vous n'avez pas d'idée, oui, on en a quelques-uns. Type, qu'est-ce que vous feriez avec une troisième main? Proposition d'Emmanuel Le Chypre, qui peut donc servir en famille.
On en a discuté chez moi ce week-end.
Oui, et donc?
Et donc, voilà, c'était très intéressant.
Mais absolument, il ne faut pas forcément faire des conflits. Tu as des très bonnes idées, Emmanuel.
Non, il faut en profiter pour apprendre aux enfants à se faire des idées par eux-mêmes et à argumenter.
Et c'est pas toi la famille Ricoré, mais tu te moques du monde.
C'est pas toi la famille parfaite, mais tu te moques du monde.
Mais non, hein. pas forcément.
C'est clair, il se moque du monde. Pour Laurent, oui, il faut défendre le repas à table. Ça doit être un moment d'échange et de partage pour Emmanuel. Le week-end, d'accord, mais la semaine, c'est trop dur. Donc la semaine chez toi, c'est n'importe quoi. Tu manges par terre. On est toujours avec Ronan Chastelier, sociologue et maître de conférence à l'IEP de Paris. Lisa Marie, est-ce qu'on a des messages? Non. Est-ce qu'on a une tendance?
Bah oui, vous semblez être très attaché à ce repas familial à table, puisque vous êtes 65% à répondre comme Laurent Neumann que ça vous inquiète que cette tradition soit en train de se perdre.
Eh ben dis donc, ça en fait des familles ricorées. Hein. Dis donc, je sais pas ce que tu vas leur dire à tous ces gens-là, Emmanuel.
Il va
mais que vous soyez nombreux, etc., mais que vous soyez aussi très nombreux à vous voiler la face, je le crois aussi.
Ronan Chastelier, est-ce qu'il faut discuter même quand il y a des conflits, ou est-ce qu'il faut éviter les conflits à table?
Bah, il y a des conflits, c'est... c'est l'art de la démocratie de les dépasser. Donc, si on peut apprendre la démocratie à table, c'est pas mal. Si la démocratie se trouve pas tellement dans les urnes, ou de moins en moins du fait de l'abstention, si on doit, peut-être qu'elle pose. Et je pense que c'est une bonne idée de reparler de ces sujets-là à table, sans effectivement s'engueuler systématiquement. Mais justement, il y a un art qu'il faudrait redécouvrir qui est.
C'est pas Neumann le chiffre ici.
qui est de discuter sans s'engueuler, si une telle chose est possible.
Oh, bah oui, c'est joué, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je me souviens d'un déjeuner avec Emmanuel,
ouais,
qui a duré 3 heures.
Qui était paisible.
Comme une émission.
3 heures, on a refait le monde, c'était paisible, etc. Et alors, Laure, je te jure que c'est vrai, on ne s'est pas engueulé une seule fois.
C'est peut-être moi qui crée l'irritation. C'est de ma faute. Allez, on va aller au 32-16.
RMC, Neumann le chiffre.
32-16. Et on est avec Kevin qui nous appelle depuis Nîmes. Bonjour Kevin.
Oui, bonjour à tous.
Toi, tu es fonctionnaire, est-ce que tu fais des repas de famille à table chez toi?
Alors, au quotidien, oui. Par contre, ce qui me gonfle, c'est les repas de famille le samedi ou le dimanche.
Ah ouais.
Parce que j'en ai encore, par exemple, fait un ce week-end. Et je peux vous dire que quand vous y allez, que vous avez tous les mômes qui sont sur leur portable, et ben au final, excusez-moi du terme, vous vous faites chier plutôt qu'autre chose. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes sur votre portable vous aussi. Donc vous vous dites qu'en fait, vous auriez mieux fait de rester chez vous et d'être sur votre écran tranquillement à la maison.
Attends, Kevin, ce que tu appelles un repas de famille, c'est un repas à 10 ou 12 autour de la table, les frères et sœurs, les cousins, les petits cousins, etc.
C'est ça, oui.
Ah oui, alors je suis de ton avis. Ça m'ennuie.
C'est important au quotidien pour moi de manger avec ma femme. Donc même si on mange devant une série, on mange ensemble. Et après on discute, etc. Ça c'est pas de souci. Mais effectivement, oui, moi ce qui m'embête le plus, c'est les repas de famille où au final vous avez l'impression d'en fait de servir à rien. C'est-à-dire vous êtes là, on vous invite.
Il n'y a pas d'échange.
On vous convie à un repas familial. Et moi quand je dis repas familial, je vois ça quand j'étais gamin. C'est-à-dire je discute de tout avec tout le monde.
Et là, t'as l'impression que ça, c'est terminé, en tout cas, chez toi.
Pas, j'ai l'impression, c'est que c'est terminé. Vous avez tout le monde sur son portable. Vous voulez discuter de quoi? Oh, j'ai vu ça sur Twitter, sur Facebook. Enfin, si je vais discuter de ça, à ce moment-là, j'utilise les réseaux sociaux. Je ne vais pas chez les gens, je ne m'embête pas à aller chez eux.
Ah ouais.
Allez-y.
Oui, c'est vrai qu'il y a une tendance à devenir figurant un peu à table. Mais cette idée de rebondir sur les réseaux sociaux ou sur une image qu'on a vue passer, etc., à table, c'est ça la nouvelle contemporanéité, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, de plus en plus, trouvent leur sujet de conversation sur leur portable et en débattent.
Mais le souci, c'est qu'ils laissent faire, moi surtout. C'est qu'à l'époque, j'aurais été gamin, j'aurais pris mon portable à table, mais je me prenais une volée, quoi.
Oui, mais que le sujet vienne des réseaux sociaux ou de ce qu'on voit sur son portable, quel est le problème? C'est juste une question.
Les gens vont moins dans les bibliothèques. Ils sont plus sur leur téléphone portable. Donc, du coup, le sujet devient celui-là.
Non, mais voilà. Quel que soit le sujet, ce qui compte, c'est qu'on en discute.
Voilà.
Ah oui.
Et d'où que vienne l'inspiration. Ça, moi, c'est pas ça qui me choque. Ce que décrit Kevin, c'est des gens qui sont assis côte à côte et qui ne se parlent pas et qui ont les yeux rivés sur leur portable. Oui, ça.
Donc, téléphone portable interdit à table. T'es d'accord avec moi, alors?
Ah, mais moi, bien sûr que oui.
Ah, bah voilà, tu vois.
Bien sûr que oui.
Tu es ricoré aussi.
Mais bien sûr que oui. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas possible tous les soirs. Alors moi, je suis à l'inverse de Kevin. C'est-à-dire que moi, autant en semaine, je suis pour un côté pratique, etc., qui n'empêche pas de discuter par ailleurs. Mais alors moi, j'aime les repas sacralisés. Moi, j'ai des souvenirs inoubliables de repas de famille du dimanche. Et tu vois, par exemple, moi, il y a une tradition que je n'ai pas, mais à laquelle j'ai participé plein de fois.
Mais t'aimes les repas de Noël et tout, quoi.
Ouais,
c'est normal.
Les repas de Noël, j'aime tous ces repas. Par exemple, tu vois, moi, je suis pas du tout de confession juive, mais je reconnais que.
Tu veux faire Shabbat?
Toutes les soirées de Shabbat chez des copains auxquels j'ai participé, c'était formidable. C'était formidable. Il y avait une ambiance du tonnerre, il y avait de la nourriture à profusion.
Invitez Emmanuel Lechy pour vos fêtes chez vous.
Prenez-le. Moi, je suis pas pour sacraliser le repas ordinaire qu'on idéalise, à mon avis. Par contre, oui, c'est grand moment de retrouvailles familiales ou avec des amis. J'adore ça, moi.
Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Samuel qui nous appelle de Saint-Dié-des-Vosges, qui est électricien. Bonjour, Samuel.
Bonjour.
Toi, ça t'arrive avec ta femme de manger chacun de son côté?
C'est pas vraiment ça. Moi, je suis plus comme Emmanuel. Disons que les repas de famille avec mes sœurs, mes neveux, mes nièces, mon père, ma mère, on adore, on refait le monde pendant des heures, pas de téléphone, rien. Par contre, c'est vrai que le repas du quotidien, enfin moi par exemple, j'ai pas besoin d'attendre d'être à table tous les jours pour parler avec ma femme. Hein. On peut s'appeler quand on a nos pauses dans la journée ou s'envoyer des messages. Et c'est vrai que le soir, quand on mange, si elle veut regarder un truc bien à elle et que moi personnellement, j'ai pas envie de regarder ça, on mange à la même table, sauf que moi, je pose mon ordi sur la table, je mets une oreillette sur deux, comme ça, si elle veut pas communiquer, je suis là.
Mais disons, Laurent, il lève les yeux au ciel.
Vous regardez, vous allez jusqu'à regarder des trucs différents à la télé.
Pourquoi t'obliger tous les soirs à obtenir une espèce de consensus illusoire sur ce que tu dois regarder ensemble?
Mais
s'il y a un truc qui vous fait plaisir,
je veux même qu'on mange la même chose.
Toi qui adore débattre, tu devrais savoir que il y a rien de plus beau dans le débat que d'arriver à un compromis.
Non, mais tu vas pas passer deux heures à débattre de ce qu'il faut regarder.
Non, mais déjà,
commencer à 19h de ce que tu dois regarder à 20h45. Enfin, c'est bon.
Vas-y, Samuel.
Et puis on n'a pas besoin d'être à table pour débattre, pour communiquer. Nous on est à table. Bon, je vous dis ça, c'est pas tous les jours. Il y a des fois on regarde les mêmes choses, on arrive à tomber d'accord sur le programme télé quand même.
Non mais Samuel, à deux tu as raison. Mais dès que tu inclus les enfants dans le cercle, trouver les mêmes timings, les mêmes moments de conversation à deux, à trois, à quatre ou parfois à plus pour des familles plus nombreuses. À part le repas,
Laurent, ne vois pas comment ça arrange. Avoir envie tous les trois de regarder un film ou un truc et de se dire ce soir on se regarde tous les trois le film et on se fait un plateau et on mange autour, c'est tu partages un moment de toute façon quoi qu'il arrive.
Si tu fais comme moi ce soir, tu partages un repas puis tu vois le match, tu vois, c'est deux plaisirs séparés différents qui n'ont pas le même objet.
Merci beaucoup Samuel, allez-y.
Il y a un autre truc qui arrive qui va peut-être vous départager encore. Vous savez, il y a les accords mai 20 en gastronomie. Là maintenant la nouvelle tendance, c'est d'associer une série à un Libanais repas. Ou à un poulet rôti. En fonction de.
Manger ce sushi.
Les Japonais mangent sushi.
Ouais, voilà. Une série espagnole, une paella.
Et oui, voilà. À l'inverse.
C'est pas. C'est pas. Manger sushi en regardant un film espagnol, ça va, on digère bien, quoi.
C'était pour alimenter.
On n'est pas forcément malade. Mais il n'y a que moi qui oblige les gens à manger pareil, parce que moi, je.
Ah non, chez moi, on mange pareil.
Chez toi, on mange pareil.
Pourquoi se forcer à manger pareil?
Mais moi, si on me dit, commande-toi des sushis, je mange une vieille soupe, ça me va pas, je préfère encore manger une vieille soupe. Je déteste qu'on mange différent. Je ne connais pas le ressort psychologique qui me fait
penser
ça. Encore
une fois, je ne vois pas en quoi ça nuit à la cohésion du groupe.
Oui, mais à mon avis, Laure, c'est parce que tu fais peu la cuisine.
Je fais peu la cuisine. Alors, figure-toi que j'ai coupé des oignons ce week-end.
Ça t'a fait pleurer.
Et certains diront que j'essaye pas de m'améliorer, mais c'est faux. Allez, on tourne au 32-16. On était avec David qui nous appelle depuis Compiègne dans l'Oise. Bonjour David.
Bonjour.
Toi, qu'est-ce que tu penses du repas familial? Est-ce que tu le pratiques beaucoup de manière de temps en temps?
De temps en temps, oui. Enfin, quand c'est organisé, on va dire. Sinon, depuis que les enfants sont rentrés au collège, dès le moment où les enfants rentrent au collège, le repas familial ne peut plus exister. Sauf si, bien sûr, c'est la famille comme Laurent, personne ne va au sport, personne n'a d'activité extrascolaire.
Ah oui, t'as plus les mêmes horaires.
Voilà. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui font du sport, dès le moment où ils sont au collège, les séances de sport se passent à quelle heure? 18h30, jusqu'à 21h. Voilà. Donc si vous avez trois ados, un il a ses séances le mardi, jeudi, l'autre le mercredi, vendredi, l'autre c'est le lundi, mercredi. Vous ajoutez à ça les activités extra-professionnelles des parents. Moi je suis éducateur fédéral de football, donc pareil, j'ai mes séances. Le samedi, je suis au football, le dimanche, je suis au football. Et voilà.
Et t'as pas un moment où t'arrives à mettre tout le monde ensemble?
Quand c'est vraiment organisé, comme là samedi dernier, c'était organisé, il n'y avait rien de prévu, faut vraiment tomber.
David,
j'avais des enfants qui avaient des activités aussi. Ma femme et moi, on a des horaires compliqués. Et donc, effectivement, la veille pour le lendemain, on se dit à quelle heure chacun rentre à la maison. Et parfois, le dîner était à 20h, parfois, le dîner était à 21h30. Le dîner n'était pas toujours à la même heure.
Il y a autre chose qui décale aussi, c'est le télétravail.
Alors, essayez de rajouter à ça.
Vas-y, David.
Le fait que, par exemple, moi, je suis levé à 4h du matin. Je rentre du travail ou des séances, c'est 21h. Si tu crois que je vais rester jusqu'à 22h à table.
Je comprends.
Après, il me reste, moi, dans la journée, il me reste 5h, 6h. J'ai 6h. On va arrondir à 7h pour dormir, prendre ma douche, manger le soir.
Moi, je ne peux pas manger à 21h. C'est beaucoup trop tard.
Ah, voilà. C'est trop tard.
Ah, bah oui, tu sais bien que je déjeune à 11h.
C'est vrai.
Donc imagine si je mange à 21h, c'est pas
ça
possible.
C'est une longue plage horaire.
Non, mais c'est vrai, David, t'as totalement raison.
Le télétravail, Roland Chastelier, ça a changé la donne.
Un Français sur deux considère que le télétravail a changé leur habitude alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des zooms, etc., vous faites une petite pause gourmande juste après, vous voyez, histoire de compenser l'effort numérique. Une réunion sur Zoom égale une espèce de goûter salé ou une
gratification
alimentaire. Ce qui fait qu'on finit par manger tout le temps et que le repas lui-même perd un petit peu de son intérêt. Alors, à la fin de la journée, on va compenser avec d'autres formes de nutriments plus équilibrés, etc. Mais c'est sûr que ça, c'est vraiment l'achèvement total, si vous voulez, du repas traditionnel, bien
structuré. De l'atomisation,
ouais, l'atomisation définitive du repas.
Le télétravail tue le repas familial.
Ah bah ça,
là, j'avais pas envisagé ça.
Le repas
ça te donne un argument de plus pour être contre le télétravail, Laurent.
Oui, oui,
une note
oui,
dans ta petite besace pour un prochain débat. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. On est avec Julien qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Julien.
Ah oui, bonjour à tous.
Toi, est-ce que tu as l'habitude, tu mangeais chez toi en famille ou pas?
Moi, j'ai mis dans mon message, oui, j'ai eu l'habitude parce que moi, ma maman, elle était infirmière libérale. Donc, du coup, quand elle partait le soir faire sa tournée, ben, on mangeait seul avec mes frères à la maison. Ça nous a jamais. Voilà. Donc, après, c'est une tradition, mais les traditions, elles sont faites pour évoluer. On n'a pas le même rythme de vie qu'avant. Voilà, c'est pas...
Non, mais surtout, Julien, chacun fait comme il veut. Hein. Si oui, Emmanuel, il veut dîner devant sa série, il fait ce qu'il veut. Moi, si j'ai envie de dîner et de prendre le temps de discuter avec ma femme et mes enfants, bah, je fais comme
mais
je
est-ce
veux.
Mais est-ce que tu prends que ta mère, elle, ça lui manquait justement de pas pouvoir avoir...
Oui, parce que quand elle était là le dimanche à midi, oui, on mangeait avec elle, ça c'est normal. Mais après, voilà, c'est après chacun a son rythme de vie, chacun... voilà, c'est... Moi, je suis très famille, donc moi, j'aime bien manger en famille. Je préfère. Moi, quand j'ai mon fils, qui vient pendant les vacances, ben, on mange à table.
Tu dis pas, tiens, je t'ai préparé une assiette, tu mangeras quand t'as faim.
Non, c'est pas. Enfin, même lui, il est pas demandeur de ça. Même lui, il préfère, comme on se voit qu'aux vacances, comme il habite un peu loin, ben, du coup, lui, il préfère qu'on s'assoie à table, qu'on mange tous les deux. C'est quand même mieux, on peut discuter, on peut. Voilà.
Faites des belles tables. Ouais, moi j'aime bien faire des. Alors je ne cuisine mais je pratique les arts de la table et je fais de très belles assiettes.
Mais tu les pratiques pas tous les jours.
Quoi?
Tu les pratiques pas tous les jours.
J'ai de très belles assiettes de train.
Attends, je vous signale quand même qu'il y a un sujet qu'on n'a absolument pas abordé. Pour inciter les enfants à être contents de venir à table, il faut leur faire à manger des choses bonnes et agréables.
Et vraiment la famille Ricoh, je voulais te défendre, mais là, tu vas trop loin, quoi.
Mais non, bien mais c'est sûr quand ce qu'il y a dans ton assiette,
quoi,
c'est bon, t'es content de passer à table.
Avec des haricots verts, avec des brocolis.
Mais non, des belles choses.
Mais non, un bon osso bucco, une blanquette, des choses qui donnent envie de se mettre à table.
Ah ouais, que t'as mis 3 heures.
C'est sûr que si toi, tes enfants, ils mangent pas tes légumes, c'est parce qu'ils sont mauvais, alors que si c'est toi qui les faisais, ils seraient meilleurs, quoi.
Peut-être. Ils adorent pas les légumes, en règle générale.
En général, les légumes, c'est compliqué pour les petits, mais bon.
Ah bah, moi, chez moi, manger les légumes, excusez-moi. Allez, on va continuer à discuter ensemble du repas. C'est ce que je leur fais peur. Du repas familial. Est-ce que vous mangez à table ou pas? On vous attend au 32-16. À tout de suite. Un grand merci à Julien d'avoir été avec nous et Ludovic juste auparavant. À tout de suite.
Midi 14h.
Neumann Le Chip.
Neumann Le Chip, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. La tradition du repas familial à table se perd, sauf chez Laurent Neumann. Est-ce que ça vous inquiète? Laurent Neumann, oui, beaucoup. Ça doit être un moment d'échange et de partage. Pour Neumann Le Chip, non le week-end, d'accord, mais la semaine, c'est trop dur. On est toujours avec Ronan Chastelier, sociologue, et c'est pas grave.
Ah ben voilà. C'est le seul sujet où je suis d'accord avec toi. C'est pas grave, chacun fait comme il veut.
C'est cela, oui.
Enfin, maintenant que je viens de découvrir ta recette des pâtes au saumon, si tu veux.
Non, mais ne viens pas manger chez moi. Si. Moi, j'ai proposé d'aller manger chez toi. Venez pas manger chez moi.
C'est vrai.
Ça sert à rien. On ira au restaurant. Ronan Chastelier, vous êtes toujours avec moi, avec nous, sociologue et maître de conférence à l'IEP à Paris. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Franck qui nous appelle depuis Toulon. Bonjour, Franck.
Salut.
Franck, tu es fonctionnaire et DJ. Qui fait beaucoup d'activités. Et t'es 6 à la maison. Est-ce que vous arrivez à manger à table tous les jours ensemble?
Oui. Déjà, oui. Et puis moi, je suis c'est rare. Hein, je suis d'accord avec Laurent. Désolé, Laurent.
C'est pas grave, je t'en veux pas.
Tu t'excuses d'être d'accord avec lui. Bon.
En effet. Non. À table, c'est la convivialité. On a des vies qui vont à 400 000 maintenant, et il faut absolument trouver des moments où on se retrouve. Voilà, à partir de 19h, il y a ma petite sonnerie sur le portable, tel le chef de groupe qui sonne, et ça veut dire ramenez vos portables, et s'ils les ramènent pas dans les 10 minutes, je peux dire qu'ils vont les ramener. Et de, voilà, tout le monde pose son portable et il y a que les majeurs qui après peuvent repartir faire dodo avec leur portable, parce que j'estime qu'à cet âge-là, si on n'a pas compris que la nuit était faite pour dormir, eh ben on va en subir les conséquences. Mais pour les mineurs, ben ils laissent leur portable là toute la nuit et puis ils le récupèrent le lendemain matin.
Oh là là, voilà.
Et il n'y a pas de semaine ou de week-end. Le respect, c'est tous les jours. Il n'y a pas de oui, non, on y va pas. C'est le week-end, c'est détente et la semaine, non. Que dalle. C'est tout le temps les portables posés, on se respecte. Voilà. Et aux fêtes de famille, c'est pareil, on évite les portables parce qu'il n'y a rien de plus qui me gonfle alors qu'on habite à des centaines de kilomètres.
Bien sûr, bien sûr.
De voir des gens se passer des temps sur le portable avec des amis qui voient tous les jours. Mais avec
alors, Franck, attends, question intéressante quand même, parce qu'on avait tout à l'heure quelqu'un qui nous disait, oui, c'était pourri mon repas de famille dimanche parce qu'en fait, on s'est retrouvés en famille
et puis
tous les gens étaient sur leur portable. Mais alors toi, à l'inverse, parce que, et on avait envie de lui poser la question, mais enfin, je veux dire, les gens qui ont invité, ça les a pas dérangés, ils ont rien dit, ils ont fait aucune remarque. Toi, par exemple, si tu invites ta famille, tu as besoin de préciser les choses ou pas?
Non, non, ils le savent. Ils le savent parce que je ne vais pas hésiter, moi. Je ne vais pas passer. Ma femme est très bonne cuisinière et elle se font souvent un repas hyper complet. Et donc, j'estime qu'avec le temps qu'elle a passé, la moindre des choses, c'est de respecter un petit peu ce moment de convivialité. Ouais, donc, je ne sors pas mon portable, tu ne sors pas ton portable. On ne se voit pas assez souvent pour aller discuter avec d'autres potos. Hein. Ils ont qu'à faire ça la nuit, hein, mes enfants qui sont grands maintenant. Mais non, non, quand on est là, je n'ai pas besoin de le dire. Hein. C'est très rare que j'ai besoin de faire
ce genre d'observation. Bon, je te taquine. En même temps, tu es fonctionnaire, donc le soir, ça va.
Il est DJ aussi.
Non, parce que je rappelle quand même...
Attends, Franck, il va te traiter de feignant dans 2 secondes.
C'était juste pour le plaisir de citer cette célèbre phrase de Clémenceau. Pourquoi est-ce qu'il faut épouser un fonctionnaire? Pas tout simplement parce que quand il rentre le soir, il a déjà lu le journal, hein, il n'est pas fatigué et il rentre tôt. Voilà.
On est au top de l'information, tu as bien raison.
Mais attends, t'es DJ, Franck, donc tu ressors après, j'imagine.
Ben oui, mais comme vient de le dire notre camarade, si je me repose tellement la semaine que je peux très bien faire DJ le week-end, c'est pas voilà. Voilà.
Non mais Franck, attends, ne réponds pas à ces attaques basses et viles. Voilà, pour lui, tous les fonctionnaires sont des feignants. Attends,
ils ont le temps d'avoir un deuxième métier.
Il y a quand même Renan Chastelier, plus deux familles qui se ressemblent. Hein. On a la famille où tout le monde fait la même chose, mange à la même heure, mange à 19h. Ça n'existe plus.
Bah là, à écouter vos auditeurs, c'est assez consensuel. En fait, tout le monde a un cadre un peu militaire et refuse le portable à table et impose la convivialité. Enfin, j'entends beaucoup ça quand même parmi vos auditeurs. Je crois qu'il y a pas mal de rattrapage affectif aussi qui peuvent se faire à table. C'est-à-dire que moi, quand j'entends vos auditeurs, j'ai l'impression que la convivialité à table, c'est un moment retrouvé, qui est obligatoirement retrouvé. Alors, et donc, il y a simplement une...
Mais qu'il faut presque forcer, encadrer,
préserver, c'était une valeur.
Oui, mais
on peut quand même passer du temps avec sa famille et ses enfants autrement qu'au repas.
Ouais.
Non, mais le point commun de tous ceux qui nous appellent, c'est quand même tout le monde a des vies de dingue, des horaires décalés, etc. Et qu'au fond, le moment du repas, c'est le moment où on peut se mettre d'accord pour se retrouver. Voilà, c'est ça l'idée. Et qu'on soit citadin, pas citadin, il y a une heure de repas qui peut changer d'ailleurs selon les jours. Mais c'est le moment le plus facile où on peut dire, allez, on est tous ensemble, on laisse nos vies quotidiennes, etc. On se prend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et on partage. Voilà, c'est tout.
C'est pas obligé de durer 2 heures.
Non, t'as pas besoin de durer 2 heures.
C'est vrai qu'il y a une sacralisation du repas qui existe encore et que les Français y tiennent, tout simplement. Mais, et c'est vrai que les petits déséquilibres Netflix ou les téléphones portables ou le télétravail, ça oblige à plein de petites compensations.
Mais c'est drôle,
et affectives.
C'est quand même extraordinaire que la modernité soit forcément symbole de déritualisation. À chaque fois qu'il y a un rite, non, ça relève du passé, il faut tout désacraliser.
Peuvent tolérer les deux, en fait.
Exactement, c'est pas mal.
Avant, à table, t'avais pas le droit de parler.
Non, mais c'est pas mal quand on est moderne.
Les enfants n'avaient pas parlé à table avant.
Mais je sais pas comment c'était chez toi,
Ah, parce que chez tout le monde, les enfants avaient le droit de parler.
Chez moi, c'était pareil.
Ouais, les enfants n'avaient pas le droit de parler.
Ah bon? Quelle triste.
Donc c'était effectivement, tu t'ennuyais à table comme un rameur.
Donc il y a des évolutions.
Bah oui.
Et toute évolution n'est pas forcément à mettre à la poubelle.
Non, chez moi, le dîner, c'est l'agora, c'est le forum.
C'est le bazar. Est-ce que vous vous jetez de la nourriture? Non, je plaisante. Évidemment que vous ne faites pas ça chez Laurent.
Mais non, chez les chefs.
Et vous mettez une cravate avant de passer à table ou pas?
Chez les Lechypre, oui, on jette la nourriture au visage.
Et on s'habille.
Peut-être.
Moi, j'aime qu'on s'habille pour passer à table.
Ah bon?
Par exemple, j'aime pas qu'on passe à table torse nu.
Ah bah non, mais
c'est torse nu, c'est interdit.
Mais qui mange torse nu?
J'en ai vu des gens qui mangent torse nu.
Mais l'été, non, c'est interdit. Il fait hyper chaud.
Mais même pendant l'été, on passe pas à table torse nu. Enfin.
Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous au 32-16. J'ai vu des gens qui passaient à table torse nu. Je peux vous le dire. Je peux témoigner dans une prochaine émission. Ils sont parvenus. Merci beaucoup Renan Chasselier d'avoir été avec nous, sociologue et maître de conférence à l'IEP de Paris. Lisa Marie.
Au moins, on fait pas de tâches.
C'est vrai. Tu peux te laver directement le torse.
Mais tu peux te brûler. Torse nu. C'est pas le bonheur.
Non, tu peux te brûler, ça peut être très dangereux.
Ouais,
d'accord. Brûler. Lisa Marie, quel est le résultat définitif?
Eh bien, vous êtes finalement 68% à vous inquiéter, comme Laurent Neumann, que cette tradition du repas familial à table tous ensemble soit en train de se perdre.
Bon, ça va, je suis rassuré.
Tu n'es pas seul, Laurent Neumann, et on va continuer à parler alimentation, on va parler autosuffisance alimentaire.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, l'autosuffisance alimentaire bio et locale, ça sera possible en Europe en 2050.
Oui, faisons un bond en avant. Nous sommes en 2050. L'ensemble de la population européenne ne se nourrit plus que de produits locaux, cultivés sans pesticides ni engrais de synthèse. Les exploitations sont à taille humaine. Il n'y a plus d'usines. Vous trouvez ça utopique? C'est pourtant tout à fait réaliste selon une étude réalisée par une équipe internationale de chercheurs et publiée le 18 juin dans la revue scientifique One Earth. L'équipe de chercheurs a identifié 3 leviers pour nourrir l'Europe sans recourir aux engrais de synthèse ni augmenter la surface de terre cultivée. Le premier est un changement global de régime alimentaire. En moyenne, les Européens consomment aujourd'hui 2/3 de protéines animales pour seulement 1/3 de protéines végétales. 80% de la production agricole est par conséquent consacrée à l'alimentation du bétail. Cette proportion pourrait être considérablement réduite si la population européenne optait pour un régime méditerranéen en consommant davantage de légumes et de céréales que de viande et de fromage. Autre levier, reconnecter la culture et l'élevage. L'Europe est aujourd'hui constituée de régions agricoles hyper spécialisées. Par exemple, chez nous, la Bretagne concentre la plus grande partie des porcs et des bovins français, tandis que l'Île-de-France produit en grande majorité des céréales. Réinstaller les élevages à proximité des terres agricoles permettrait de recycler les déjections animales en fumier et donc de s'émanciper des engrais de synthèse. Et puis l'équipe de chercheurs préconise enfin de généraliser les rotations des cultures que pratique déjà l'agriculture bio. Et cette méthode, ce serait pour enrichir les terres de matière naturelle. Le fait d'alterner les cultures pourrait également diminuer la vulnérabilité de la production aux attaques parasitaires et donc aux agriculteurs de se passer de pesticides chimiques. Cette étude montre qu'il est parfaitement possible de nourrir l'Europe de manière saine et écologique. Et ça d'ici moins de 30 ans. Mais pour que ça marche, il faut dès maintenant repenser notre modèle agricole. Et ça, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est possible? Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que du côté de l'offre, du côté de la production, oui, il y a des choses extraordinaires. On voit bien, il y a déjà des techniques. Si vous prenez la permaculture, la rotation des cultures, le semis sous couvert végétal, etc., il y a déjà des techniques aujourd'hui qui permettent d'être bio, qui permettent d'être productif, d'avoir des rendements et à des prix acceptable. Donc ça, c'est clair. Par contre, moi, je suis plus sceptique sur la demande, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que les gens accepteront de changer leur alimentation comme ça, de passer à du bio, à de la protéine végétale comme ça? Moi, c'est plus mon inquiétude. Mais après, il y a les prix qui font que si on met en place une taxe carbone, bah paf, on aura des incitations à manger plus de produits de protéines végétales. Donc c'est possible. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est possible à produire, en tout cas.
Moi, si tu me demandes de manger moins de viande et moins de fromage, déjà, ça part mal.
Voilà. Ça
part très mal.
C'est la demande qui va coincer.
Ça part très mal. Moi, je veux bien tout.
Tu veux pas grand chose.
Manger bio aussi, manger bio. Moi, je préfère à choisir.
Et local.
Mais si tu me dis que pour y arriver, faut que je mange moins de viande et moins de fromage, je pense que ça va être difficile de faire admettre ça. Et puis, pardon, l'idée que les pays du Nord se mettent à adopter les traditions culinaires du sud de l'Europe, là aussi, c'est pas gagné. C'est des changements culturels vachement profonds. Hein.
Toi, t'es pas prêt à adopter le régime méditerranéen.
Non, mais moi, j'adore ça, le régime méditerranéen. Mais si tu vas un peu plus au nord de l'Europe, Grande-Bretagne, pays scandinaves, Allemagne, pays de l'Est.
Mais c'est pas tellement ça le défi, Laurent. Le défi, c'est que chacun arrête que les modes alimentaires convergent moins et qu'ils redeviennent un peu plus spécifiques. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on recommence à manger les produits qui viennent de ces pays-là. Oui, que dans le Nord, on mange beaucoup de poissons, de protéines.
Tant que c'est local, mais, c'est moins voilà. un problème.
C'est-à-dire que c'est ça le truc. C'est qu'il faut se... Oui, c'est pas normal qu'on cultive du maïs, effectivement, dans le Sud, alors que le maïs est une plante qui demande énormément d'eau. Bah oui, donc il faut revenir un peu à une forme de raison.
Merci Lisa Marie, on peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr.